Dans cette première épreuve de mes 12, ceux qui ont le plus donné sont ceux qui se sont le plus oubliés, oubliant non seulement leur passé, mais aussi leur personnalité limitée. Ce sont ceux qui ne se sont plus souvenus de ce qu'ils étaient et qui se sont tellement fondus en Dieu qu'ils n'ont plus peur de rien. Pourquoi les réserves de certains ? Parce qu'ils se sont souvenus de leurs scrupules habituels, de leurs habituelles considérations, de leurs habituelles préventions. Pourquoi le laconisme des autres ? Parce qu'ils se sont souvenus de leur incapacité doctrinale et parce qu'ils ont craint de faire ou de me faire piètre figure. Pourquoi les exhibitions trop visibles d'autres encore ? Parce que ces derniers se sont souvenus de leur orgueil habituel, de leur désir de se mettre en vedette, d'être applaudi, de sortir du commun, d'être quelque chose. Enfin, pourquoi la révélation imprévue des autres dans un discours magistral, sûr de lui-même, persuasif, triomphal ? Parce que ceux-ci et ceux-ci seuls ont su se souvenir de Dieu. Il en a été de même de ceux qui étaient humbles et cherchaient à passer inaperçus et qui, au bon moment, ont su assumer d'un coup la primauté qu'on leur conférait et qu'ils ne voulaient pas exercer par crainte d'être présomptueux. Les trois premières catégories se sont souvenues du moi inférieur, la quatrième du moi supérieur, et ils n'ont pas craint. Ô sainte hardiesse qui vient de l'union avec Dieu. Or donc, écoutez, et vous, apôtres et disciples, vous, apôtres, avez déjà entendu ces idées, mais maintenant, vous les comprendrez plus profondément. Vous, disciples, vous ne les avez pas entendues ou d'une manière fragmentaire. Il faut les graver dans vos cœurs, car je vais me servir toujours plus de vous, puisque le troupeau du Christ ne cesse d'augmenter. Car le monde vous assaillera toujours plus, le nombre des loups allant croissant contre moi le pasteur et contre mon troupeau. Je veux vous mettre entre les mains les armes qu'il faut pour défendre la doctrine et mon troupeau. Ce qui suffit au troupeau ne suffit pas à vous, petits bergers. S'il est permis aux brebis de faire des erreurs en broutant des herbes qui rendent le sang amer et exaspèrent les désirs, il ne vous est pas permis à vous de commettre les mêmes erreurs en amenant un troupeau nombreux à sa ruine. Réfléchissez que là où se trouve un berger idolâtre, les brebis périssent empoisonnées ou assaillies par les loups. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, mais si vous manquez à votre mission, vous deviendrez un sel insipide et inutile. Rien ne pourra plus vous rendre la saveur si Dieu n'a pu vous la donner, si, en ayant reçu le don, vous lui avez fait perdre sa saveur en le diluant dans les eaux fades et souillées de l'humanité, en l'adoucissant avec la douceur corrompue des sens, en mêlant au sel pur de Dieu des déchets et des déchets d'orgueil, de convoitise, de gourmandise, de luxure, de colère, de paresse, de sorte que l'on a un grain de sel pour 7 fois 7 grains de chaque vice. Votre sel, alors, n'est qu'un mélange de pierraille où se trouve perdu le pauvre grain de sel. De pierraille qui grince sous les dents, qui laisse dans la bouche un goût de terre et rend la nourriture répugnante et désagréable. Il n'est même plus bon pour des usages inférieurs, car un savoir pétri des 7 vices nuirait même aux missions humaines. Et alors, le sel n'est bon qu'à être jeté et à être foulé aux pieds insouciants des hommes. Que de peuples pourront ainsi piétiner les hommes de Dieu, car ces appelés auront permis aux peuples insouciants de les piétiner, car ils ne sont plus la substance vers laquelle on accourt pour trouver la saveur de choses nobles, célestes, mais ils seront uniquement des déchets. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes comme ce sommet qui a été le dernier à perdre le soleil et le premier à recevoir la lumière argentée de la lune. Celui qui se trouve en haut brille, et on le voit, car l'œil, même le plus distrait, se pose parfois sur les hauteurs. Je dirais que l'œil matériel, dont on dit qu'il est le miroir de l'âme, reflète le désir de l'âme, le désir souvent inaperçu, mais toujours vivant, tant que l'homme n'est pas un démon. Le désir des hauteurs où la raison place instinctivement le Très-Haut. Et en cherchant les cieux, il lève au moins quelquefois, dans le courant de la vie, l'œil vers les hauteurs. Je vous prie de vous rappeler ce que tous nous faisons depuis la plus tendre enfance en entrant à Jérusalem. Où se précipitent les regards? Vers le mont Moria, que couronne le triomphe de marbre et d'or du temple. Et quand nous sommes dans son enceinte, nous regardons les coupoles précieuses qui resplendissent au soleil. Que de beauté il y a dans l'enceinte sacrée, répandue dans ses atriums, dans ses portiques et ses cours. Mais l'œil s'élance vers le haut. Je vous prie encore de vous souvenir de nos voyages. Où va notre œil, comme pour oublier la longueur du chemin, la monotonie, la fatigue, la chaleur ou la boue? Vers les cimes, même si elles sont peu élevées, même si elles sont lointaines. Et comme nous sommes soulagés de les voir apparaître quand nous sommes dans une plaine uniformément plate, y a-t-il de la boue en bas? En haut, c'est la pureté. Y a-t-il une chaleur étouffante en bas? En haut, c'est la fraîcheur. L'horizon est-il limité en bas? Là-haut, il s'étend sans limite. Et rien qu'à les regarder, il semble que le jour soit moins chaud, la boue moins gluante, la marche moins triste. Et puis, si une cité brille au sommet d'une montagne, voilà qu'alors il n'est pas Dieu qui ne l'admire. On dirait même qu'une localité sans importance s'embellit si on la place presque aérienne au sommet d'une montagne. Et c'est pour cela que dans la religion vraie et celles qui sont fausses, toutes les fois qu'on l'a pu, on a construit les temples sur un lieu élevé. Et s'il n'y avait pas de collines ou de montagnes, on leur a fait un piédestal de pierre en construisant à force de bras la plateforme sur laquelle on placerait le temple. Pourquoi agit-on ainsi? Parce qu'on veut que l'on voit le temple pour qu'il rappelle par sa vue la pensée vers Dieu.